qu'il y a un volet tchadien où les victimes tchadiennes avaient saisi la juridiction de leur propre pays. C'est face à l'échec qui a eu lieu que ces associations ont demandé le soutien des organisations africaines comme l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal que je présidais à l'époque en 2000. Et il y a eu par la suite le soutien des organisations internationales comme la FIDH, Human Rights Watch, Agir Ensemble et d'autres organisations. Ensemble, il y a eu cet appui à soutenir sur la base du mécanisme de compétence universelle au nom de la FIDH pour saisir les juridictions sénégalaises afin que Hissène Habré soit alors mis en examen et jugé sur la base des accusations de crimes contre l'humanité et d'actes de torture. Et le dossier que nous avions faisait état de près de 40 000 cas d'assassinats et de 200 000 cas de disparition et d'actes de torture. Les juridictions sénégalaises se sont déclarées incompétentes en disant que la Convention contre la torture n'était pas intégrée dans les dispositions du Code de procédure pénale sénégalais. C'est sur la base de cela que nous avons été amenés à saisir les juridictions belges. Ça, c'est le troisième volet de l'affaire Habré. Il y a évidemment des victimes belges que nous avions trouvées, avec les autres victimes qui sont au Tchad. Nous espérons que justice sera rendue à ces victimes qui ont longtemps attendu. Mais avant d'en arriver là, nous avons utilisé tous les moyens pour que ça il soit jugé par la justice de son pays. Ce ne fut pas possible. Nous avons tout fait aussi pour que ce soit une juridiction africaine qui le juge. Ce ne fut pas possible. Sans doute que l'Afrique ne veut pas juger ses bourreaux. Et nous sommes bien heureux que, sur la base de ce mécanisme de compétence universelle, que la justice belge puisse juger donc Hissène Habré.
Et en la matière, donc en matière de compétence internationale et universelle, la Belgique donc fait figure de pionnière.
Oui, la Belgique a fait figure de pionnière. Bien sûr que la Belgique a eu quand même beaucoup de pression. Elle a dû réformer sa loi de 93, en 99 et en 2002, en raison des pressions qui ont eu lieu. Mais ce qui est important, ces réformes ont tenu compte aussi de l'existence et de l'effectivité de la Cour pénale internationale dont le statut de Rome est entré en vigueur à partir du 1er juillet 2002, si bien qu'aujourd'hui, les États du monde, et particulièrement les États qui ne veulent pas juger pour des raisons ou pour une autre leurs criminels, particulièrement ceux qui ont commis les crimes internationaux les plus graves que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides dans leur pays, les bourreaux, les présumés coupables de tels crimes seront jugés devant la Cour pénale internationale.
Est-ce qu'il y a d'autres anciens chefs d'État, notamment africains, qui risquent gros en la matière?
Il y en a bien sûr d'autres. Nous pensons à Mengistu Haile Mariam, qui était président sanguinaire de l'Éthiopie. Il y a Charles Taylor. Il y avait aussi Idi Amin Dada, qui est décédé à l'heure actuelle. Mais au-delà de l'Afrique, il y a bien sûr d'autres tortionnaires. Il y a eu le cas Pinochet, mais il y a Albert Fujimori qui est aussi pourchassé, comme bien d'autres qui se sont illustrés par la perpétration de ces crimes que la communauté internationale réprouve.